Soyez les bienvenus.
I'll say, okay, if someone will write a secret inside, he has 10 seconds to write a secret inside. Last chance. Mm.
Okay.
Moi, je veux.
Okay.
So, now it really must be very fun. So normally you do it part for part, we don't do it.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Les gens qui ont le secret dans le canton de Fribourg, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas de ce secret-là dont il est question, c'est assez mystérieux.
C'est un secret de lutherie puisqu'on est au moment de refermer le violon qui est fabriqué dans cet atelier de musique ancienne de Gruyère. Mmh. Et le maître du stage, le luthier allemand Andreas Korczak, est en train de demander à ses apprentis s'ils ont envie de glisser un papier qui restera à tout jamais dans le secret de l'instrument.
Dans la grande tradition des violons, notamment des violons baroques, là, des spécificités, hein, ce violon baroque des Alpes, comme vous le nommez, David Mestri.
Oui, qu'on pourrait appeler violon de chalet, puisqu'il fait penser, quand on le voit, à ces décorations de meubles gruériens ou bernois. Et oui, c'est souvent de la région bernoise que viennent les grands luthiers du XVIIe siècle, de cette école que l'on redécouvre à la faveur de cet atelier. Ça, c'est un très joli travail. Là, vous êtes en train de préparer le dessin de la touche. Non, papa.
Non, ça c'est le cordier.
Ah, c'est le cordier, oui.
C'est le cordier et je viens de entailler tout ce motif là que vous voyez, mm-hmm, avec des petits carrés. Et une fois entaillé, je dois sortir le bois délicatement pour créer une rainure dans laquelle on va poser le filet.
Qui est déjà prêt là, oui.
Et puis là,
en bois plus foncé. Hein.
En fait, c'est de l'écorce. C'est deux sortes de bois. C'est le noyer et le peuplier.
C'est donc un petit morceau à filer, un bois très fin qui va être glissé dans la suite de la rainure.
Voilà, ça c'est le résultat.
Ah oui, parce que c'est le cordier du modèle.
Du modèle, voilà, on copie ça.
Ça donne un travail très fin au final.
On croirait que c'est peint,
oui,
noir et blanc, mais en fait c'est
la marqueterie.
C'est ça, c'est le contraste entre ce peuplier et le noyer qui a été foncé d'ailleurs avec de la rouille, mmh, et du vinaigre.
Ah oui.
Voilà, donc ça fait tout l'après-midi que je fais ça, mmh, j'ai pas fini.
C'est un travail que vous avez déjà fait par ailleurs ou vous êtes
Non, j'ai jamais fait. Il m'a montré tout à l'heure. Donc, on va faire le même motif sur la touche. On le voit là, il y a la touche là. Et sur la table aussi après. Mais non, j'ai pas encore eu l'occasion de faire ça.
Vous participez à ce stage comme passionné de violon ancien ou comme luthier dans l'âme?
Oui, dans l'âme, oui. Non, je viens pour la construction du violon. J'aime bien le bois. J'étais déjà là il y a 2 ans pour la guitare de Schubert. Et voilà, je découvre d'autres techniques, d'autres gens. C'est une équipe sympa.
Une semaine à travailler ici dans cette salle des gardes du château de Gruyère. Et votre nom?
Stéphane.
Et vous? Je vous ai aussi déjà croisé dans cet atelier de Gruyère.
Moi, j'étais déjà là l'an dernier, en fait, quand on a construit l'organistrum.
Et donc, toujours le même intérêt pour les instruments anciens?
Oui, pour le travail du bois, pour tout ce qu'on apprend, en fait. Et c'est vrai que, du coup, comme il faut tout faire, en fait, c'est ça, plus que les instruments anciens, c'est le fait que, comme on le fait à l'ancienne, on fait absolument tout. Typiquement, là, les filets, il a fallu faire les filets, faire la marqueterie. Ce qu'apparemment se fait jamais. Normalement, quelqu'un qui construit 100 guitares à l'année, il ne s'emmerde pas à faire des...
Il sous-traite les parties artistiques, si on veut dire, enfin plus esthétiques.
Ouais. Alors que là, et donc j'apprends, et on le fait comme on a fait ça, comme on le fait avec du vinaigre. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, foncièrement, pas très dur et sans un outillage hyper perfectionné. Mais hyper précis, ça. D'ailleurs, je pense qu'il a fait la plupart de ses outils lui-même.
Oui, les outils sont faits spécialement pour, je pense que, pour servir à ce creusement voilà, des rainures.
À mon avis, c'est Andreas qui a fait ses propres outils, sûrement.
Très bien. Andreas Korczak, ist es ein Traum, dass so viele Leute mit ihm also im Atelier so.
Natürlich, ja, ich fühle mich wie ein großer Meister.
Bien sûr, je me sens un grand maître et d'être dans les coulisses, c'est un endroit rêvé ici, dans un château en Suisse.
Et au troisième jour, je trouve que c'est déjà très avancé. Il y a la plupart des pièces qui sont déjà, même presque déjà en train de faire des finitions pour les filets.
Eine Woche ist sehr wenig Zeit.
Une semaine, c'est très peu de temps. Pour moi, c'était important de construire le violon du début à la fin, de ne préparer aucune pièce à l'avance pour que tous les participants aient la possibilité d'essayer de faire chacun les pièces depuis les travaux de base jusqu'à la volute, au galbe du violon, de tout faire soi-même en une semaine. C'est peu de temps, mais on va essayer.
Cet intérêt pour cette école alémanique, Andreas Korczak, dont vous êtes, m'a dit Philippe Notet, un peu le spécialiste, d'où est-ce qu'il vous est venu? Est-ce que vous avez fait tout de suite des violons à l'ancienne? Est-ce que vous êtes moins intéressé par les célèbres écoles italiennes?
Das ist ein langer Weg gewesen. Ich habe angefangen mit dem Geigenbau, mich relativ schnell im Barock.
Oui, ça a été un long chemin. J'ai commencé avec la lutherie de violon et je me suis relativement vite spécialisé dans les violons baroques. Dans ma carrière jusqu'ici, à part un instrument, je n'ai construit que des violons baroques. Et cette spécialisation s'est poursuivie des violons baroques vers les violons flamands et néerlandais et aussi les violons suisses et de la forêt noire. C'est une tradition de fabrication tout à fait différente, qui n'a rien à voir avec les violons italiens, qui provient plutôt de la tradition des ébénistes, fabricants de meubles, alors que la tradition italienne vient plutôt des luthiers proprement dit, des facteurs de lutte. C'est une toute autre manière de construire les violons, une manière qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. La lutherie italienne l'a remplacée et s'est continuée jusqu'à aujourd'hui. L'autre usage est tombé dans l'oubli et voilà, je m'y intéresse parce qu'on ne fabrique plus de cette manière et parce qu'on n'en sait pas trop, enfin peu de choses. Et comme les musiciens veulent aller de plus en plus profond dans le sens de la façon de jouer authentique, redécouvrir ce monde sonore, à mon avis, c'est très important.
Mais est-ce que ça peut sonner comme un violon normal?
Ça dépend de ce qu'est une bonne sonorité. Nous savons beaucoup de choses, nous savons de quoi ont l'air ces violons à l'intérieur. Je sais à peu près comment ils ont été construits, mais nous ignorons comment ils sonnaient. Et cela, nous ne le savons pas non plus des violons de Stradivarius. Ils ont été transformés pendant tout ce temps, 300 ou 350 ans, ils n'ont plus le même son qu'il y a 300 ans. Et donc le son, pour moi, en fait, n'est pas important. L'important pour moi, c'est que je réussisse à construire l'instrument aussi authentiquement possible. Et c'est le travail du musicien de se débrouiller avec le son qui en sortira. Peut-être que pour nos oreilles, ce ne sera pas le plus beau, mais ce n'est pas de mon ressort.
Quand même, il faut faire sonner le violon à la fin.
Ja, natürlich. Am Sonntag hören wir das Konzert. Und da kommt auch.
Oui, bien sûr. Il y aura un concert dimanche et il y aura des sons qui sortiront du violon. Mais juger de la sonorité, ce n'est pas important pour moi. Mon travail, c'est que les violons soient bien jouables, qu'ils réagissent, qu'il ne soit pas impossible de les faire jouer. Si c'est impossible, alors je sais que j'ai fait quelque chose de faux. Mais sur la qualité du son, je ne me permets pas de faire un jugement. En fait, aucun musicien ne devrait se le permettre. On ne peut parler que pour son goût personnel, mais notre goût dépend de comment nous avons été élevés. Si je donne déjà à ma petite fille des olives, elle aimera les olives plus tard, et c'est aussi comme ça avec les sons. Ce que nous connaissons, ce à quoi nous sommes habitués, nous l'aimons.
C'est drôle de penser que c'est des fabricants de meubles qui faisaient aussi les violons. On a l'impression que c'est moins noble, il y a moins d'amour de l'art, peut-être, de l'art du son.
Ja, nein. Möbelmacher ist nur der Weg, wie sie dazu gekommen sind, ne, zum Bau. Die Art und Weise, diese Geigen zu bauen, ist meiner Meinung nach viel älter.
Oui, non. L'ébénisterie n'est que le chemin qu'ils ont pris pour venir à la lutherie. La manière de construire ces violons, à mon avis, est bien plus ancienne que la manière italienne. Je pense que c'est une rémanence de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui a été développée. Auparavant, c'était les musiciens qui fabriquaient eux-mêmes leurs instruments, les musiciens ambulants qui faisaient leurs vielles, et plus tard, Avec l'augmentation de la demande, quelques-uns de ces musiciens se sont installés professionnellement comme facteurs. Et ici, dans cette région, c'était principalement des gens qui n'ont pas vécu seulement de la facture, mais aussi de l'agriculture. Et en hiver, ils faisaient de la lutherie. Dans la forêt noire, c'est typique, avec les horloges coucou, qui sont des produits qui étaient faits par les paysans pendant l'hiver. Et fréquemment, les instruments étaient joués dans la famille, mais bien sûr, pour avoir un appoint aux revenus agricoles, le métier est né et a perduré.
Vous avez parlé tout à l'heure, Andreas Korczak, des écoles aussi flamandes et hollandaises. Ça veut dire que chaque pays avait son école de lutherie différente, que les musiques auraient peut-être sonné différemment dans les différents endroits?
Oui, j'en suis convaincu. Je ne sais pas bien sûr comment ça sonnait à l'époque, mais j'en suis convaincu. Et je sais aussi que des régions de factures différentes sont apparues. Il y a plusieurs possibilités d'atteindre en but, différents chemins, aussi en lutherie. Quand je reproduis un violon, j'essaye de faire plusieurs fois le même violon pour essayer différentes voix et trouver peut-être laquelle est la plus vraisemblable. Et ces voix sont continuées par la tradition, ainsi naissent les traditions. Le père transmet à son fils, comme lui a appris son père. C'est comme ça dans la lutherie italienne, mais aussi dans la lutherie du nord des Alpes. Et les différentes traditions ont des avantages et des inconvénients, et la meilleure se perpétue. Ça ne veut pas dire que ce qui est tombé dans l'oubli est mauvais, parce qu'entre-temps, la technique se modernise. Et malgré tout, pour beaucoup de choses, on revient à des techniques anciennes. Et je pense qu'en musique, c'est aussi un pas.
Est-ce que vous n'êtes pas trop modeste, Andreas Korczak? Sind Sie nicht zu modest, wenn Sie sagen, dass man den damaligen Klang nicht kennen kann? Es gibt doch... Quand vous dites qu'on ne peut pas connaître la sonorité de l'époque, il y a pourtant des violons qui nous sont parvenus intacts à travers les siècles. Est-ce qu'ils ne sonnent pas probablement comme à l'origine?
Also, das ist ein Vergleich, fällt mir jetzt ein mit dem leckeren Käse, den Sie hier haben, den Gruyère. Der schmeckt ja auch anders, wenn ich ihn 2 Jahre lang im Kühlschrank aufbewahre. Und so ist das mit einer Geige auch. Nach 200-300 Jahren.
Oui. C'est-à-dire, c'est simplement comme pour l'excellent fromage que vous faites ici en Gruyère. Il aura encore du goût si je le laisse 2 siècles au frigo. Et c'est la même chose avec un violon. Après 200 ou 300 ans, même s'il a été parfaitement conservé, il ne peut pas sonner de la même façon. Le Gruyère n'a plus le même goût après 2 ans que la première année. Je suis peut-être extrémiste, mais la sonorité est surestimée. Nous avons un idéal sonore que nous ne pouvons plus comparer avec autrefois. Autrefois, nous le savons par les musicologues, le goût général était beaucoup plus nasal pour la musique. Beaucoup d'instruments qui sont conservés, les cornets à bouquins et autres, ont un son très nasal. Et c'était pour les anciens la beauté. Ce qu'aujourd'hui on dirait un son enrhumé était considéré comme beau. Et donc, on ne devrait pas se permettre de juger. Mon domaine, je suis luthier, je veux faire mon travail aussi bien que possible. C'est le musicien qui doit vivre avec ce que je lui donne. Et oui, ensemble, nous arriverons bien à quelque chose.
Il n'y a pas encore d'enregistrement sur des instruments de cette école alémanique?
Si, il en existe 2. L'un avec des instruments montés à la moderne, et l'autre avec des instruments originaux, du musée de Berlin. C'est un très bel enregistrement qui a essayé d'être aussi historique que possible en utilisant des cordes anciennes, quand ça a été possible et fiable. Il n'y avait qu'un microphone placé au milieu, donc on a tenté de faire une prise de son de telle manière à ce qu'elle convienne aux instruments. C'est un bel enregistrement, malheureusement épuisé en ce moment, je crois, mais je crois qu'il sera réédité. Je ne me souviens plus du nom des musiciens, mais ça a été organisé par le musée d'instruments de musique de Berlin, dirigé en particulier par Annette Otterstedt, qui a en fait découvert des instruments alémaniques et s'est rendu compte de leur intérêt.
Raboter, alors ça c'est le fond du violon.
Exactement, oui.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je m'appelle Federica et je suis ici faire le stage pour construire ce violon alto. Et j'habite à Fribourg, je suis en musicologie en quatrième année.
Et passionnée par la lutherie ?
Et passionnée par la lutherie, exactement, oui.
Ça vous donnerait envie d'en faire d'autres après
de continuer ? Oui, beaucoup d'autres. Ouais.
Vous avez un tout petit rabot là pour enlever encore la matière. Il faut la rendre très fine, cette pièce.
Oui, oui, oui. Il faut la raboter encore pour avoir l'épaisseur qu'on a déjà tracée tout autour.
Et la courbe qui est notée par ses patrons là, qu'on place dessus pour voir qu'elle est bien le bon bombé.
Oui, oui. On a ici cet outil pour mesurer la bombature. Et puis, ouais, il faut juste suivre.
Ensuite, il faudra creuser l'autre face.
Oui.
C'est ça. En laissant, c'est cette pièce qui aura une rainure au milieu qui sera laissée.
Oui, oui.
Très bien. Alors, bonne suite.
Merci.
Wo mache ich das eigentlich? Ihr seid die Lehrlinge.
Ja, ja, also dann. Ja, jetzt wird es glücklich.
So, die Klemme.
Non, mais on l'a mis où l'âme?
Ja. Die kommt später, ne? Die kann man von außen rein. Ja, die muss von außen. It's later, die kann nicht von outside. Ganz vorsichtig lösen.
Ein Problem mit Travex.
Die Klemme viel höher machen.
Et vous allez mettre une âme finalement alors?
Oui. Ah. Thank you.
Genau. Und morgen, wenn es dicht ist, dann schleifen wir den Leim wieder ab mit den Zyklen. Mhm. Und dann sind unsere Poren aber schon geschlossen. Ja. Und dann können wir eigentlich sehr schnell lackieren.
Die fermen die Poren mit der Colle.
Oui.
Puis demain, on va passer avec...
Un rabot
une, non, avec un papier abrasif.
Non, un papier abrasif.
Ah, ça, c'est pas bizarre.
Mettre, Ziegling. Zieglingen.
Ah, die da. Ah, ja, toi, pardon. Ah, oui.
Also, Schleifpapier nie.
Ça n'existait pas. Et pour la décoration demain, ça va être très pressé.
Also... Wahrscheinlich aber eine Zeitspanne, die früher realistisch war.
C'est-à-dire que c'est un délai qui était réaliste autrefois. Ça doit être fait en 2-3 heures. C'est une bonne école.
Die werden nicht zweifarbig oder so, oder doch?
Doch, die werden zweifarbig, also schwarz-weiß-schwarz, die Einlagen. Und die haben wir schon zusammengeleimt, also aus schwarz gefärbten
Holz. Grüne, das man auch...
Nein, das Grün ist bei diesem Modell nicht. Das habe ich zwar mitgenommen.
La décoration sera en noir, blanc, noir. Les filets, nous les avons déjà collés, teintés en noir. Il n'y aura pas de vert dans ce modèle. J'en ai pris, pour le montrer, du bois coloré en vert par un champignon. Mais ici, pour les décors, nous n'avons que du noyer teint en noir avec du fer, c'est-à-dire avec de la rouille et du vinaigre. Et pour le blanc, du bois de peuplier tout fin.
Que ce soit peu ou beaucoup décoré, ça dépend du temps qu'avait le luthier, c'est ça, Andreas Korczak?
Das ist schwierig zu sagen. Also, die Dekoration spielt sich natürlich auf dem
Preis. C'est difficile à dire. La décoration est liée au prix. Plus un instrument est décoré, plus il était cher à la vente, probablement. Pour le dire du mauvais côté, les instruments avaient beaucoup de décoration parce qu'autrement, ils n'auraient jamais pu se vendre, tellement ils étaient mauvais. Mais je ne sais pas, on l'entendra au concert dimanche.
Haben Sie schon ein Modell so dekoriert gemacht?
Ja, die sehen wir am Sonntag, können wir sehen. Da sind zwei Diskantgeigen von mir, die Sonntag auch gespielt werden, die mit Blumenmotiven sind und wo die.
J'ai déjà fait des instruments très décorés, vous les verrez dimanche. Deux violons soprano avec des motifs de fleurs, où tout le dos est orné de marqueterie.
Les chevilles ont été faites ici aussi, Andreas Korczak.
Die sind hier gemacht worden, ja.
Ja, aus welchem Holz?
Das ist Pflaumenholz. Das haben die alemannischen Instrumente haben ganz viel aus Pflaumenholz, was ein sehr hartes Holz ist.
Oui, elles ont été faites ici. C'est du bois de prunier. Les instruments alémaniques ont beaucoup de prunier. C'est un bois très dur, un très beau bois qui va jusqu'aux teintes violettes et bordeaux. Sonorité d'atelier, David Mestri, en l'occurrence de ce 8e atelier de musique ancienne auquel vous avez participé avec votre micro à Gruyère, c'était en août passé pour la construction, l'élaboration de ce violon baroque suisse. Maintenant, David, il faut savoir comment ça sonne en concert aussi.
Alors, on a pu le savoir le dernier jour de cet atelier, grâce aux instruments, notamment fabriqués par Andreas Korczak, qui a beaucoup parlé aujourd'hui de son art et de sa vision de la lutherie.
Oui.
Et c'était l'ensemble Fluidimontes qui s'est formé pour l'occasion autour d'un consort de 4 violons de cette école alémanique que nous allons entendre. L'ensemble Fluidimontes, emmené notamment par Christophe Friedo, qui sera mon invité de demain.
Demain avec vous, David Mestri, mais aussi avec Marie-Claude Kudry, qui est notre réalisatrice cette semaine, Et bien sûr avec Isabelle Watson pour l'assistance à la production, proposition de Jean-Luc Rider. Alors écoutez maintenant quelques accents de cet ensemble Fluidimontes tel qu'il a joué à ce concert auquel vous avez peut-être assisté, vous qui écoutez Musique en mémoire, c'était le dimanche 29 août passé. Ça vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Notez qu'elle se podcast désormais, comme on dit également. Et chaque émission de Musique en mémoire est proposée en nouvelle diffusion dès minuit sur Espace 2. C'est Espace 2 que vous écoutez. Il est 15h.